Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT. On est ravis d'être avec vous tous les jours, du lundi au vendredi jusqu'à 15h, avec aujourd'hui autour de la table Rémi Barré. Bonjour Rémi.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Avec également Benjamin Muller, journaliste et producteur du podcast pour enfants Encore une histoire. Bonjour Benjamin.
Bonjour Estelle, bonjour tout le monde.
On est également avec le chef du service culture de Valeurs Actuelles, Laurent Mandrieux. Salut Laurent.
Bonjour Estelle.
Et puis notre journaliste maison, Fred Hermel. Salut Fred.
Salut Estelle, salut à tous.
On était également avec vous, bien sûr, au 32-16 pour agir à tous nos débats. Aujourd'hui, tout d'abord, le rapatriement en France de 15 femmes et 32 enfants qui avaient rejoint Daesh en Syrie. Faut-il continuer à rapatrier les familles de djihadistes? On attend également vos réactions sur l'appli RMC. À midi et demi, l'appel à la grève des remontées mécaniques pour toutes les vacances de février. Est-ce que c'est scandaleux? À 13h, le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz qui propose de taxer les plus riches à 70% pour réduire les inégalités dans le monde. Bonne ou mauvaise idée? 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h45, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. On parlera des baskets. Vous savez, voilà, tout le monde a des baskets aujourd'hui, mais c'est un désastre écologique. On vous expliquera pourquoi avec Stéphane. Et puis à 14h, un père de famille devenu un héros aux États-Unis après être sorti avec fracas d'un groupe WhatsApp familial. On a tous rêvé. En invoquant son droit à la déconnexion, est-on devenu esclave de nos téléphones? Et puis enfin, on vous fera gagner beaucoup d'argent sur RMC. Votre facture de chauffage, pour être précis.
Oui, RMC défend votre pouvoir d'achat. Demain, toute la journée, nous vous remboursons vos factures pour l'hiver, bois, gaz, fuel, électricité. Vous vous inscrivez tout de suite en envoyant le mot facture par SMS au 732-16. Facture par SMS au 732-16. Deux SMS, 75 centimes par SMS.
Et on va tout de suite démarrer avec l'actualité du jour dans Estelle Midi. C'est le rapatriement en France de 15 femmes et 32 enfants qui avaient rejoint le groupe Daesh en Syrie. 7 femmes font l'objet d'un mandat d'arrêt et 8 ont été placées en garde à vue. Mais quel est donc, Rémi, le profil de ces rapatriés?
Eh bien, les profils, ce sont 15 femmes concernées, âgées de 19 à 56 ans. Et pour 7 d'entre elles, elles font l'objet d'un mandat d'arrêt, seront présentées devant un juge dès aujourd'hui. Il y a également parmi elles une jeune fille de 19 ans, aujourd'hui orpheline, emmenée en Syrie par ses parents à l'âge de 11 ans. Une autre jeune femme, qui a désormais 24 ans, était arrivée dans la zone, alors aux mains de l'État islamique, à l'âge de 15 ans. Leur avion s'est posé tôt ce matin sur l'aéroport de Villacoublay, en banlieue parisienne. À son bord également, 32 enfants, dont un garçon de 13 ans, kidnappé par son père et qui va pouvoir retrouver sa mère en France. Les autres seront confiés à l'aide sociale à l'enfance. Après la chute de Daesh en 2019, les autorités françaises ont longtemps refusé, on le sait, d'effectuer ce type de rapatriement. La doctrine était alors de laisser les adultes sur place pour y être jugés et de faire rentrer les enfants au cas par cas. Mais les critiques récurrentes venant de la part notamment de l'ONU, de l'UNICEF, de différentes ONG humanitaires ou encore de la Cour européenne des droits de l'homme ont changé la donne. Il y reste encore environ une centaine d'enfants, une cinquantaine de Françaises actuellement en Syrie. Et d'après certaines sources, la majorité refuse désormais de rentrer.
Alors, faut-il continuer à rapatrier les familles de djihadistes? Je vais commencer avec vous, Fred Hermel.
Dans rapatrier, il y a patrie. Et ces gens-là ne sont plus français. Ils ont brûlé leur passeport. Ils ont combattu au sein d'un État ennemi de la France.
Ils n'ont pas forcément combattu. Hein.
Bah, enfin, ils étaient dans cette île de Joïla.
Voilà, non mais d'accord. Non, mais...
Voilà, puis il y a des attentats qui ont. Enfin,
bien sûr.
Ce sont des ennemis de la France. Ce sont des gens qui sont. Il y avait une guerre.
Les enfants n'ont pas combattu.
Pour ça, la doctrine d'avant me paraissait très bien. On parlait de cette jeune fille là, qui a 19 ans, qui avait été emmenée par ses parents quand elle avait 11 ans. Cette pauvre fille n'est pas responsable. Donc bien sûr qu'elle, c'est une adulte aujourd'hui, mais c'est normal de la faire revenir en France. Mais pour les enfants, bien sûr qu'il faut les faire revenir au nom de l'humanité. Et souvent il y a des grands-parents qui veulent les accueillir, qui sont.
Donc tu les coupes de leur mère.
Oui, mais à un moment leur.
Bah non, mais
Oui. Mais leur mère a pris un choix de les emmener sur un territoire de guerre, dans une guerre contre leur pays, quoi. Enfin, faut voir. Moi, je trouve que des enfants comme ça, séparés de leur mère, c'est pas très mal. C'est pas si mal. Je vous rappelle quand même qu'en France, on sépare des parents, des enfants de leurs parents, quand même. L'aide sociale à l'enfance, en France, aujourd'hui, part du principe que des enfants.
On peut pas laisser en Syrie les femmes et prendre les enfants.
Mais en France, je termine mon argumentation là-dessus. Il y a des enfants qui sont séparés de leurs parents en France. Parce que les parents estiment Parce que la France, parce que l'aide sociale en France estime qu'il y a un danger pour les enfants d'être élevés par ce genre de parents. Si être élevé par des terroristes, c'est pas pire que. Enfin, je veux dire, je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas. Pourquoi on sépare et on a raison des enfants de leurs parents en France et on ne séparerait pas, on ne voudrait pas séparer des enfants de terroristes, de ses parents terroristes. Voilà, je ne comprends pas la logique en fait. Je trouve que ce qui était fait avant, et en plus, comme toujours, on a cédé, c'était très bien, au cas par cas, et puis les enfants
oui,
les ramenaient.
Là, toutes les femmes qui sont là, les 15 en fait, que tu rapatries, c'est-à-dire que tu vas pouvoir les contrôler. Quand elles sont en Syrie, tu ne peux pas les contrôler. Oui, elles sont dans des camps qui peuvent être ouverts. Elles peuvent fuir si elles fuient, à ton avis. Qu'est-ce qu'elles vont vouloir faire? Donc là, au moins, tu les contrôles.
Ouais,
il y en a qui sont mis en examen, mais il y en a d'autres qui vont être écroués.
Il y a des manifestations monstres contre la France. Il y a des ennemis de la France partout. Il y a des terroristes partout qui veulent mettre des bombes en France. On ne peut pas contrôler tout le monde. Donc voilà, enfin, je trouve qu'au niveau du symbole, c'est très grave de faire ce qu'on fait. Et s'il vous plaît, qu'on n'emploie pas le mot rapatrier, parce qu'il n'y a parce que c'est pas leur patrie. Voilà, ce n'est plus leur patrie. Ça l'a été, et ce n'est plus leur patrie.
Benjamin Muller.
C'est vrai que dans le profil des femmes, il faut quand même regarder en détail. On ne parle pas de gentilles petites victimes qui ont subi des maris méchants. Il y a notamment la veuve d'un des kamikazes du Bataclan. Enfin, je veux dire, il y a du costaud qui est revenu. Mais moi, je suis plutôt de l'avis d'Estelle. J'ai plutôt tendance à préférer que ces femmes-là soient jugées en France avec la sécurité judiciaire qui est la nôtre, plutôt qu'en Syrie, parce que le cas par cas jusque-là, c'était de dire on les laisse juger dans les pays où sont passées les exactions, etc. En Syrie, l'autorité judiciaire, je veux dire, elle n'existe pas. Il ne faut pas se voiler la face. Donc, on ne sait pas ce qu'elles deviennent. Après, moi, je trouve que dans le sujet, il y a trois sujets différents. Il y a ces femmes. Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a ses enfants, où effectivement, la gamine qui a 11 ans, c'est quelque chose, mais il y a aussi des tout-petits qui sont nés là-bas.
Bien sûr, ils ne sont pas responsables.
Et qui ne sont pas du tout responsables. Et alors là, je veux dire, c'est tout à l'honneur de la France de prendre ces enfants-là. J'ai lu un petit peu le détail, je pense, vous aussi, de comment on prend en charge ces enfants. C'est tout à l'honneur de la France. Oui, on était très en retard. Je veux dire, là, ils atterrissent à Villacoublay. Il y a les services de protection de l'enfance qui sont là, services judiciaires, prise en charge spécifique sous l'égide du parquet antiterroriste. J'ai vu dans les contres, il y en a beaucoup qui disent, mais ces enfants, demain, seront relâchés dans la nature. Pas du tout, en fait, c'est le parquet antiterroriste qui verrouille. Enfin, je veux dire, ils sont pas, il y a rien qui les sait. Bilan psy, des vaccins. Là, les psys qui sont interrogés disent, on parle de gamins qui sont polytraumatisés. Enfin, je veux dire, c'est comme l'enfer. Et c'est vrai que moi j'ai une petite tendance.
Ils n'ont pas vécu dans un palace quand ils étaient en Syrie.
Mais j'ai quand même moi tendance à penser que pour l'humanité vis-à-vis de ces enfants, je préfère que même si ces femmes sont, on vient de le dire, voilà, des dangereuses terroristes, tout ce qu'on veut, j'ai quand même tendance à penser que pour eux, c'est quand même mieux qu'ils reviennent ensemble et qu'après ces femmes de toute façon ils sont séparés. Ils vont être.
Et ils pourront aller voir leur mère en prison.
Et voilà. Et qui reste comme leur mère.
Et l'autorité parentale, elle va être respectée ou pas?
Et souvent, c'est les enfants qui vont être chez leurs grands-parents, en fait. Ouais. Vous avez des grands-parents qui se sont battus pendant des années pour récupérer leurs petits-enfants.
D'ailleurs, il y a des témoignages, ça arrache le cœur de lire les témoignages des grands-parents qui subissent ces choses-là et qui se retrouvent avec des petits-enfants qu'ils connaissent pas, qui ont 4 ans, 5 ans, qui sont traumatisés, qui dorment pas la nuit, qui font des cauchemars, qui détestent les hommes, qui ont peur des hommes. C'est un truc qui revient beaucoup parce qu'ils ont beaucoup vu les hommes là-bas frapper les femmes, etc. Donc, ils ont pas du tout le fantasme, comme on pourrait croire, du combattant, du guerrier, etc. Au contraire, ce sont des gamins qui sont, voilà, qu'on a besoin d'aide.
Laurent Andrieux, c'est le devoir de la France, justement, de rapatrier ces femmes et ces enfants qui sont français.
Non, moi, je suis exactement sur la même ligne que Fred. Je pense que, effectivement, ces gens-là, les parents, en tout cas, les femmes, ont déclaré la guerre à la France. Et la solution pour moi, c'est de prendre acte de cette déclaration de guerre qu'ils ont fait et de faire ce que font nos amis britanniques, c'est-à-dire prononcer des déchéances de nationalité qui fait que on acte le fait que ces gens-là en fait ne sont plus français dans leur tête et donc ils ne deviennent plus non plus administrativement. Quand on nous dit ils vont rentrer en France et être pris en charge par l'autorité judiciaire qui sera plus fiable que ce qui se passe dans ces pays-là, dans les pays où ils sont actuellement. Moi, je suis un peu sceptique parce que, excusez-moi, mais la justice française n'est pas toujours connue pour sa rigueur et sa fermeté.
On va pas la comparer à la justice syrienne.
J'entendais sur une chaîne concurrente un spécialiste de ces questions qui disait, j'ai pas réussi à vérifier l'information parce qu'on trouve pas de données là-dessus, mais que sur les 50 femmes qui avaient été rapatriées lors du dernier rapatriement collectif en octobre, je crois, il y en avait une qui avait été mise en examen et que les autres, probablement, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, se promènent dans la nature.
Moi, elles sont surveillées, Laurent. Imaginez un instant que des femmes qui reviennent de Syrie, qui avaient des maris djihadistes, soient comme ça lâchées dans la nature.
Je suis moyennement rassuré.
Faut quand même faire confiance à la justice.
Sauf que des exemples de ratés de la justice et des services de sécurité, on en a quand même eu pas mal ces derniers mois, notamment en termes de d'attentats ou d'agressions. Moi, je pense qu'effectivement, la seule solution efficace, c'est la déchéance de nationalité.
Mais ils sont français?
Bah, la déchéance de nationalité, c'est justement faire que des Français qui ont déchu de leur devoir de Français ne soient plus Français. Ça existe dans toute la guerre.
Mais on en fait quoi? Donc on les laisse là-bas et puis ils deviennent aux Syriens ou je ne sais quoi.
C'est pas notre problème. C'est notre problème. Ennemis.
D'accord.
Mais comme ils ont voulu s'en prendre à la France, est-ce que vous trouvez pas que c'est aussi à la France de les juger? Admettons. Des chances de nationalité, ils sont plus français. Vous avez pas envie qu'ils soient jugés en France sur notre sol?
Moi, je préfère la sécurité.
Pour le Bataclan, comme il y a eu finalement très peu de procès, parce que dans le Bataclan, ils sont tous morts par définition. Il y a une procès plutôt annexe. Moi, je trouve que ce serait une bonne chose d'avoir effectivement la veuve qui va venir expliquer ce qu'elle sait, comment ça s'est passé, comment les choses. Et à mon avis, les services de renseignement français sont très contents que ces femmes arrivent en France pour les entendre.
Oui, alors ils sont très bien maquillées.
Et s'ils veulent les interroger, ils peuvent très bien les interroger de sur place. Alors ça.
Sans doute ce qu'ils faisaient, mais à mon avis, ils sont très contents qu'elles soient bien au chaud en France pour pouvoir les
entendre. Mais d'abord, le but de la justice n'est pas de décrire l'histoire. Donc effectivement, faire des procès uniquement pour avoir des témoignages et savoir ce que les gens pensent. Moi, je pense que c'est une fausse conception de la justice. Et puis, par ailleurs, je pense que je préfère effectivement qu'on ne prenne pas de risque avec la sécurité du Français et qu'éventuellement, on ne juge pas des gens qui auraient pu l'être que...
Le zéro risque n'existe pas, mais on avait eu pas mal de quelques rescapés du Bataclan en fait qui avaient déjà témoigné dans Estelle Midi il y a quelques mois parce qu'on avait déjà eu ce sujet et ils disaient, et franchement, je vous avoue, ça m'avait étonné. Ils disaient non, on préfère qu'ils reviennent en France parce que justement, ils vont pouvoir être jugés, ils vont pouvoir témoigner. Et pour ces rescapés, c'était extrêmement important d'entendre cette parole et d'essayer de.
Oui, mais moi, c'est cette conception de la justice avec laquelle j'ai du mal. C'était la justice comme thérapie. Le but de la justice, c'est pas ça.
Non, là, c'est de punir aussi.
Oui, mais
c'est à la fois de comprendre. Tu penses que ces gens-là vont être punis.
Oui,
voilà, exactement.
Et Laurent et Fred, vous mettez en avant le problème sécuritaire, mais je vous rappelle que là-bas, ces femmes. Et ces enfants sont hors de contrôle parce qu'ils sont aux mains des Kurdes. Les Kurdes eux-mêmes disent qu'ils n'ont pas les moyens d'assurer leur surveillance. Ils étaient dans le camp, notamment la plupart étaient dans le camp de Roj, au Kurdistan, en Syrie. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de sécurité. Il y a eu des évasions d'ailleurs. Et je vous rappelle que les terroristes du Bataclan, ils sont pas venus de la banlieue parisienne. Ils sont venus de Syrie jusqu'ici.
Oui, ils sont venus pour certains dans des bateaux de migrants, je le rappelle.
Ah, exactement. On est avec Malik qui nous appelle de Garges-lès-Gonesse dans le Val d'Oise. Bonjour Malik.
Bonjour tout le monde.
Bonjour. Et Malik, vous vouliez réagir à ce débat sur le rapatriement de ces femmes et de ces enfants de Syrie. Allez-y Malik.
Oui, bon en fait, moi ce que j'entends de Frédéric Hamel, alors et puis ça m'étonne pas trop, mais je suis assez surpris par son humanité, bien évidemment, tout comme toujours quand ça concerne une partie de la population. Aujourd'hui, ces femmes sont français, que vous le vouliez ou pas, il faut s'en occuper. Alors même si vous, maintenant, si vous voulez créer des autres lois que pour ces personnes-là. Pourquoi pas? Elles sont français, elles doivent rentrer. Maintenant, il faut effectivement les accueillir d'une certaine façon. Alors, de les juger ou de les encadrer, de les surveiller, ça, je suis bien d'accord. Les enfants n'ont rien demandé. Donc, ils doivent rentrer en France avec leur mère. On peut pas séparer. Alors là, mais je suis tombé par terre quand j'entends. Il faut séparer les mères et les enfants.
C'est ce qui est fait en France quand les parents sont convaincus de maltraitance. On sépare les enfants de parents en France. Oui. Et vous pensez qu'on peut pas séparer un enfant d'une mère terroriste ou appui de terroriste? C'est ça que je comprends pas.
Non, alors là, c'est là votre problème. Votre problème, c'est que vous oubliez en fait la partie humaine. Donc, on sépare pas un enfant de sa mère.
Ces gens-là l'ont oublié aussi à un moment, hein, il me semble.
Mais vous pensez qu'en France, on ne doit pas séparer des enfants de parents? Et c'est ce qui se fait tous les jours.
C'est pas ce que je dis. On peut les séparer, mais on les laisse dans le même pays qui puisse se voir à un moment donné.
C'est ça, c'est ce qu'on a dit.
Mais attendez. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'alors, il y a encore autre chose qui m'étonne. C'est que moi je défends pas ces familles-là, hein, c'est pas ça. C'est le fond de ma pensée qu'il faut les rapatrier, il faut s'en occuper parce qu'ils sont français. Point à la ligne. C'est tout ce que je dis. Maintenant, je dis pas qu'il faut pas les juger. Oui, il faut les juger pour ce qu'ils ont fait. Et souvent des femmes ont suivi leur mari ou voir leur compagnon. Donc souvent elles n'ont pas non plus été hyper actives ou je ne sais rien sur le territoire.
Mais parmi elles, il y en a qui ont été actives justement quand elles font l'objet d'un mandat d'arrêt. Excusez-moi, on ne fait pas l'objet d'un mandat d'arrêt pour rien.
Non, mais
elles vont être jugées, bien sûr.
Bien sûr. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on avait fait des pieds et des mains il y a quelques années pour des trafiquants de drogue français qui ont été bloqués en Asie ou je ne sais quoi.
Mais d'accord, mais monsieur, ça n'a rien à voir. Malik, trafiquant de drogue et personnes qui ont commis un attentat sur le territoire français ou qui sont susceptibles de le faire, c'est pas pareil.
Estelle, c'est sur le principe. Pourquoi on rapatrie des condamnés pour trafic de drogue? Donc on rapatrie alors des Français qui sont quand même des délinquants. Et on se dit ah bah
mais bizarrement c'est pas pareil.
Ils ont été jugés.
Mais si c'est sa logique soutient.
Mais Malik. Là on parle de djihadistes qui avaient dans l'idée d'attenter à la sécurité du pays. Je veux dire de tuer des Français. Vous avez vu ce qui s'est passé le 13 novembre. Je veux dire, vous vous rendez compte? C'est pas.
Donc on assume ces actes. Moi, je ne vais pas en Amérique du Sud faire du trafic de drogue.
Mais c'est un autre sujet, Malik. Malik, c'est un autre sujet. Malik, ça n'a rien à voir. Le terrorisme. Non, mais Malik, le trafic de drogue et le terrorisme, c'est pas la même chose. Encore une fois, je ne banalise pas le trafic de drogue, ça n'a rien à voir.
Non, mais dans sa logique, Estelle, ça se tient quand même. Si on a un Pablo Escobar. Attendez, si on a un Pablo Escobar français.
Mais non, mais c'est pas
si on a un Pablo Escobar qui va faire sa loi au Mexique et on sait les ravages de la drogue, etc. On imagine. Et qu'il y a des attentats comme c'était le cas sous Escobar, etc. Et donc il y a des centaines de morts, etc. La question se posera la même chose. Je veux dire, sa logique, je la comprends. Un Français qui commet une fraude, on le fait revenir.
C'est pas pareil.
Non, on avait tout fait pour faire revenir Michael Blanc d'Indonésie. Je pense que c'est à ça que.
Ah oui, d'accord. Mais Florence Cassé, Michael Blanc, tout ça, c'est.
Mais oui, c'est des gens de son estime qui n'ont pas bénéficié d'une défense adéquate par rapport.
Et ça n'a rien à voir. Même si tu commets un crime à l'étranger qu'on te rapatrie, je dis un crime, c'est ça. Une chose, c'est de commettre un crime. Une chose, c'est d'être un ennemi du pays, d'avoir. Tu comprends la logique. Tu commets un crime, bien sûr, c'est horrible. Mais si tu commets un crime et que tu te déclares non français et que tu te retournes, tu fais la guerre à la France. C'est pas du tout la même logique. Enfin, je suis désolé, je vois pas qu'on peut comparer les choses.
Mais en tout cas, sur les enfants, c'est bien qu'ils soient suivis pour éviter que ça fasse des bombes à retardement, en fait.
Oui, mais tout le monde est d'accord. Pour les enfants, ils sont pas responsables.
Et qu'ils puissent avoir une vie normale.
Encore faut-il là aussi faire du cas par cas et vérifier que certains qui sont maintenant des adolescents n'aient pas été tellement endoctrinés.
Alors, ça, c'est le cas. Le paquet est mis sur ces enfants. Ce qu'on peut préciser quand on dit qu'on sépare pas dans notre pays les enfants des parents, vous savez que des femmes sont enceintes. Sont en prison enceintes. Quand elles accouchent, vous savez comment ça se passe. Pendant 18 mois, les bébés restent en cellule avec ces femmes-là pour ne pas les séparer. Mais après, au bout de 18 mois, on enlève ces enfants de. Parce qu'effectivement, vous avez des enfants qui dorment en cellule aujourd'hui même, à Fleury-Mérogis, essentiellement. Donc, c'est quand même pris en compte, je veux dire, dans la politique judiciaire, de ne pas séparer les enfants et les femmes, même si on parle pas.
Oui, mais combien de temps? 18 mois.
18 mois, pas plus, effectivement. Ouais, absolument.
Là, c'est les enfants de 6 ans.
Oui, bien sûr, qui sont plus grands.
Merci Malik, en tout cas, d'avoir été avec nous. Ahmed nous appelle de Créteil. Bonjour Ahmed.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous, Ahmed, sur RMC. Vous voulez réagir à ce débat également?
Oui, exact. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que sur le plateau, on dit qu'ils sont partis là-bas pour combattre la France ou faire la guerre à la France.
Mais ils ne sont pas partis pour faire du tourisme.
Voilà, ok, très bien. Mais moi, je ne savais pas que la France, elle était en Syrie ou en Irak. Si je veux combattre la France...
Non, mais les attentats ont été préparés là-bas, monsieur.
Oui, d'accord, ok. Vous parlez juste du Bataclan.
Mais le mot juste est trop, Ahmed.
Bataclan, de Charlie.
Combien de victimes irakiens, combien de victimes syriennes?
Mais quel rapport? Ahmed, ça n'a aucun rapport.
Ils sont partis là-bas pour combattre les Irakiens et les Syriens. Braquer deux pays. Mais attends, c'est pas sérieux ce que vous dites. Ils sont partis pour combattre la France. Donc moi, je pars en Syrie, en Irak, pour combattre la France.
Mais oui.
Ok, d'accord.
Parce que vous allez rejoindre un groupe qui s'appelle Daesh. Ahmed, ils sont partis rejoindre un groupe qui s'appelle Daesh. Les attentats en France ont été revendiqués par Daesh.
Mais Daesh, c'est tous des Européens. Ils sont partis de l'Europe. La Turquie. D'accord? Ils se sont constitués là-bas. Ok? Et ils ont massacré ces deux peuples. D'accord?
On ne parle pas de la même chose, Ahmed.
Ici, contre des milliers de victimes là-bas.
Non mais d'accord, mais on ne parle pas de ça. Ahmed, on parle de gens qui sont rapatriés et les femmes étaient des compagnes de djihadistes qui voulaient attenter à la France.
Ils sont pas partis. Donc ils sont pas partis attenter là-bas, comme vous dites, les Irakiens ou les Syriens. Il y a pas eu aucune victime.
Mais Ahmed, c'est pas le débat là aujourd'hui. Là on parle pas de ça. Là on parle des femmes de djihadistes et des enfants. Donc pour vous, manifestement, il faut les rapatrier. Il y a pas de souci avec ça.
Il faut les rapatrier. Ils vous appartiennent, c'est des Français. Rapatriez-les.
Ben non, s'ils sont partis faire la guerre aux Irakiens et aux Syriens, comme vous dites, c'est aux Irakiens et aux Syriens de les juger. Ils doivent être jugés là-bas. Pourquoi on les rapatrie?
On ne peut pas les juger là-bas.
Ben, les autorités locales, si.
Non, c'est pas possible. Parce que là-bas, comme vous dites, pour le moment, il n'y a pas de justice.
Non, mais ça, c'est vrai. Toutes les autorités internationales, l'ONU, le Cours européen des droits de l'homme, tout le monde dit qu'il ne peut pas y avoir de vrais juges. On ne peut pas quand même faire genre. Ils ont une justice.
On les juge sur quoi? sur quoi? Il faut voir ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'on
mais
peut
c'est parce que c'est pour ça que c'est la France qui doit les juger parce qu'en fait au cas par cas et en fait c'est la France qui doit le juger parce que effectivement s'ils sont partis là-bas en Syrie avec l'envie de faire des attentats après en France et de revenir. Ah oui, mais c'est à
de toute façon, il y a des enquêtes menées. La question est posée sur quels éléments on va se baser le jugement de ces femmes, notamment. Il y a des enquêteurs français qui sont rendus sur place. Il y a des enquêtes qui sont menées par la direction antiterroriste sur chaque cas et on recueille des éléments sur chaque profil concerné.
Et par ailleurs, pour moi, la simple appartenance à une organisation terroriste dont le but affiché est de semer la terreur et le sang en France vaut motif de déchéance de l'internationalité.
Oui, mais après, il faut aussi savoir ces femmes en fait lesquelles sont vraiment si avec potentiellement une envie de faire des attentats celles qui ont été effectivement sous le joug de leur mari parce que ça a
été rejeté
aussi.
Cette loi ça a été projeté par François Hollande qui a renoncé à le faire parce qu'il fallait qu'il fasse une réforme de la Constitution si mes souvenirs sont bons et qu'il a fallu le courage de
même démissionner parce qu'il a vu cette idée là
en tout cas voilà c'est un débat qui est toujours extrêmement clivant. On va terminer avec des messages Rémi et le résultat de notre consultation sur Twitter. On vous avait posé la question. Êtes-vous en faveur du rapatriement des familles de djihadistes, Rémi ?
Ce message de Philo qui résume assez bien la pensée de la plupart des messages qui nous arrivent sur Direct Studio dans l'application RMC. Bonjour, ils ont choisi de quitter la France pour un état terroriste. Qu'ils restent là-bas, on n'oublie pas toutes les familles de victimes du terrorisme en France. Que vont-ils penser que les impôts français, de nos Français, vont servir pour ces potentiels futurs terroristes ? Voilà, je lis ce message tel qu'il nous vient, mais ça résume quand même assez la pensée générale. Et d'ailleurs, le résultat du sondage est assez net. Doit-on continuer à rapatrier les familles djihadistes ? C'est non pour 87% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Je pense qu'il parle surtout des femmes et moins des enfants, en fait.
Oui, exact. Oui, je pense que les enfants, il y a un consensus pour dire qu'effectivement, il faut les rapatrier et puis évidemment les confier à des services
les
qui vont exactement les accompagner psychologiquement, évidemment. Dans un instant, un débat plus léger. On va parler des grèves. Tiens, on l'avait pas vu venir celle-là. La grève des remontées mécaniques pendant les vacances d'hiver. Est-ce que vous trouvez ça scandaleux ? À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Midi 30 sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi, on est ensemble jusqu'à 15h avec Rémi Barré et Benjamin Muller, journaliste et producteur du podcast pour enfants, encore une histoire, avec Laurent Dandrieux, chef du service culture de Valeurs Actuelles, et puis Fred Hermel, notre journaliste maison, et on va s'intéresser tout de suite à la grève du jour. Et cette grève, je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'avait pas vu venir, c'est un truc un peu inédit, et c'est bien qu'on puisse encore innover dans ce domaine. Cette grève, c'est celle des remontées mécaniques. La CGT et FO ont lancé un préavis pour les vacances de février pour protester, entre autres, contre la réforme des retraites. Autant dire, Rémi, que les stations de ski doivent s'attendre dès maintenant à des annulations en cascade.
Oui, d'autant que Force Ouvrière a donc rejoint la CGT dans sa mobilisation et qu'à eux deux, ces deux organisations ont obtenu près de 100% des voix aux dernières élections syndicales dans le secteur des remontées mécaniques. Leur capacité de mobilisation est très importante. Malgré tout, le préavis de grève illimité qui démarre le 31 janvier à minuit au soir de la deuxième journée de mobilisation prévue contre la réforme des retraites ne signifie pas que les employés des remontées mécaniques ne reprendront pas le travail. Selon FO, les remontées fonctionneront normalement à partir du lendemain. Le syndicat ne veut pas fragiliser encore des entreprises déjà en difficulté. Bon, n'empêche que le préavis, il a pour objectif de respecter les délais légaux pour permettre aux saisonniers de participer à la prochaine journée de mobilisation contre la réforme qui devrait être décidée un jour de février et que la menace, elle plane. Pour les vacances de février, l'une des périodes les plus fastes, de l'année pour le secteur, si moins d'un Français sur 10 part chaque année en vacances au ski, une semaine coûte en moyenne entre 900 et 1000 euros par personne, tout compris dans les grandes stations, autour de 600 euros dans les stations les plus modestes, et que c'est une économie vitale pour de nombreuses régions, de nombreuses communes.
Je peux vous dire que cette année, ces sommes-là sont largement dépassées avec l'inflation.
C'est la moyenne.
Déjà, la moindre raclette coûte 600 euros. Vous êtes obligé d'ouvrir, casser votre PEL. Faut-il priver les vacanciers de remontées mécaniques ? Est-ce que c'est scandaleux ? Je commence avec vous, Laurent Dandrieux.
Alors déjà, moi, je me réjouis que dans un pays qui perd progressivement tous ses savoir-faire, celui-là, celui de la grève, demeure et reste encore une fierté française.
On est très fort là-dedans.
On est quand même le champion du monde de la grève et c'est quand même bien de savoir qu'on est numéro un au moins dans ce truc-là. Voilà. Après, je sais pas le fait que les gens n'aient plus de remontées mécaniques qui me chagrine le plus, pour être tout à fait franc. Autant j'étais vraiment outré qu'on puisse envisager par des grèves d'empêcher les Français de se réunir pour Noël ou pour le jour de l'an. Là, je trouve ça moins, peut-être un peu moins choquant. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, les syndicats le disent eux-mêmes, attention à ne pas fragiliser un secteur qui est déjà extraordinairement en crise. C'est un peu le problème de ce genre de conception de la grève qui finalement se rapproche assez proche de manière assez proche du chantage, c'est que finalement, ça consiste un petit peu aussi à scier la branche sur laquelle on est assis.
Et que ce sont quand même des Français qui ont les moyens donc de partir au ski. Donc s'ils ne peuvent pas partir au ski, ou s'ils disent tiens, il y a une chance que les remontées mécaniques soient fermées, ils vont aller ailleurs, à l'étranger, au soleil, ou alors au ski ailleurs. Et donc en fait, on va perdre aussi une manne financière pour un secteur, encore une fois, qu'on a
vu. Aller en Suisse, hein.
qui est durement touché.
Après, il n'y a pas que des gens.
Il
n'y a pas que des ultra riches.
Il n'y aura pas de grève.
Il n'y a pas que des ultra riches qui font du ski non plus. Il ne faut pas exagérer. Il y a des locaux déjà. Il y a tous les gens qui habitent pas loin. Et puis il y a aussi des gens plus modestes qui.
Oui, puis on peut faire des coups de phoque sur remontée mécanique. Enfin, bon, voilà, c'est autre chose. Vous voyez, quand vous avez des enfants, vous ne pouvez pas leur dire ils ont 3 ans, les pioupiou, aller faire de la peau de phoque. Ça ne marche pas. Mais on a quand même l'impression. À chaque fois qu'il y a un secteur qui marche en France, bim, on fait tout pour le pénaliser. Fred Hermel.
Il y a 3 semaines, on avait un débat ici. Sur l'avenir de, à cause du réchauffement climatique, sur l'avenir des sports d'hiver en France, est-ce qu'il fallait interdire, etc. Et j'étais le premier à dire, mais attendez, on est premier pays touristique, première destination touristique au monde selon les chiffres de l'OMT, l'Organisation Mondiale du Tourisme. C'est vrai qu'on a un domaine skiable important, etc. Mais le problème, c'est pas que les remontées mécaniques, c'est les restaurants, c'est tous les gens qui vivent de ça, les saisonniers. Enfin, je veux dire, c'est une économie qui est en danger.
Si t'as pas de remontées mécaniques,
c'est pas simplement les sports d'hiver en tant que tels qui sont menacés. C'est tout l'environnement autour et l'économie locale, quoi. C'est-à-dire, ça veut dire quoi après? Ça veut dire désertification, plus de médecins, plus de boulangers, plus de restaurants. Enfin, voilà. Enfin, c'est fou. Je n'arrive pas à entrer dans la logique des syndicats. C'est-à-dire,
ils sont aussi impactés par la réforme des retraites.
Oui. Si t'es au chômage, parce que il y a plus de remontées mécaniques et parce que la station ferme, je pense que t'auras d'autres soucis que ta retraite. Ton souci, ça va être de trouver un travail demain matin. Donc, le fait de casser l'outil de production, il y a un côté. Je détruis mon outil de production est quelque chose d'absolument surréaliste et que je n'arrive pas à comprendre cette logique.
Voilà, après, c'est quand même moins grave de pénaliser finalement quelques Français qui partent au ski que de pénaliser tous les Français en bloquant les trains, par exemple.
Oui,
c'est ce que disait Laurent Dandrieu.
Mais justement, c'est là la grande erreur. C'est que eux, ils ne pénalisent pas beaucoup de Français, ils se pénalisent eux-mêmes.
Oui. Oui, mais enfin,
parce qu'ils vont détruire.
Ceci étant, apparemment, ils ont des revendications qui ne se limitent pas à la réforme des retraites et notamment le fait que les saisonniers n'ont des droits sociaux, si j'ai bien compris, que s'ils peuvent justifier de 6 mois de travail, alors qu'en fait, c'est des professions où souvent on ne travaille pas juste même 4 ou 5
ans. Ça, c'est la réforme, la loi travail qui a eu lieu il y a quelques mois, où aujourd'hui, en fait, on peut avoir des indemnités chômage que quand on a travaillé 6 mois et pas 4 mois, effectivement.
Voilà. Et ça pénalise les saisonniers.
Benjamin Muller, vous partez au ski, vous?
Non. Je pars pas au ski, non. J'ai 3 enfants, j'ai pas le budget, les amis. C'est vraiment très cher. Éventuellement dans les Vosges, mais il y a pas de neige, donc bon.
Oui.
Fred, tu dis que tu comprends pas. Bah, c'est le principe d'une grève, en fait. Enfin, depuis toujours, le principe d'une grève, c'est bon. Bah, tu prends un petit pari sur le fait que tu vas pas bosser, que ça va pénaliser ton secteur d'activité. C'est le principe de base.
Là, tu peux le détruire parce qu'il est en danger là.
Oui, mais je veux dire,
quand tu fais une grève à la SNCF, tu sais très bien que la SNCF, elle va pas s'écrouler parce qu'il y a l'État derrière et tout ça. Quand tu fais une grève dans les remontées mécaniques, là, on a eu le débat ici. En plus, il y a beaucoup de gens qui veulent arrêter ça. Etc. C'est-à-dire, les écologistes, ils applaudissent en disant super, nous on est contre l'exploitation de la montagne, etc. Donc, ce que je comprends pas, c'est pas les Français qui pénalisent, c'est eux-mêmes et ceux qui travaillent autour.
Mais alors, j'essaye de me mettre à leur place, en tout cas dans leur tête, et je me dis que aux gens qui veulent faire ces grèves-là sur les remontées mécaniques,
d'accord.
Ils doivent se dire que déjà, c'est vrai, ils sont dans un secteur qui est en train de crever. Qu'on leur annonce qu'ils vont devoir bosser plus, sachant qu'eux n'ont pas de boulot, etc. Donc ils doivent se dire un peu foutu pour foutu. J'imagine que c'est très compliqué. Après, c'est vrai qu'on se tire un peu une balle dans le pied. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de neige. C'est vrai que quand tu vas skier maintenant, sauf si tu montes vraiment très haut, t'as une chance sur deux pour pas aller skier. Des gens comme moi, et je pense, on aurait pu aller skier il y a encore quelques années, mais maintenant c'est trop cher. Puis en plus, t'es pas sûr d'avoir de la neige. Puis en plus, avec les enfants, c'est vrai que ça coûte un bras, etc. Donc tout ça est très compliqué.
Un bras et une jambe.
Un bras et une jambe, ouais. Sans parler du risque.
L'autre, tu la casses.
Un croisé. Avec le prix des mutuelles qui augmente, enfin, je vous dis pas. Hier, je regardais, ça n'a rien à voir, mais en fait, si. La série Fauda, 4e saison, sur la série Netflix, sur l'antiterrorisme, qui se passe en série israélienne fantastique, etc.
Quel rapport?
Il y a une petite référence sur la France à un moment. Quand ça, il parle juste d'un mot de la France en disant, oulala, on va pas appeler les Français avec toute leur bureaucratie et leur grève, ça va encore nous plomber. Voilà. Et je me dis, voilà, dans le monde entier, une série qui est vue dans le monde entier, on a cette petite image qui est un peu notre fierté. Juste une chose quand même, moi, le principe de la grève, là où je comprends moins, c'est de s'attaquer au plaisir, aux passions des gens. Quand tu bloques le train, je vois l'idée, tu veux bloquer un pays, tu veux bloquer l'économie du pays, là, tu veux faire chier les gens qui veulent aller avec leurs enfants, passer un petit peu de bon temps, c'était un peu comme à Noël, les enfants
pas de quand tu bloques les trains, tu bloques aussi les gens qui veulent aller passer du bon temps.
Mais là, je veux dire, c'est vraiment juste, bon, les gens, personne doit prendre du plaisir, etc. Et donc là, comment tu rends le truc populaire? C'est impossible.
Mais tu bloques aussi l'économie de toute la station.
Mais c'est ça,
oui, l'économie, on en a parlé. Moi, je dis qu'il y a aussi dans l'esprit des gens, c'est un moment de plaisir, on te prive d'un moment de plaisir, le ski reste quand même un moment de plaisir, il n'y a pas que des bourgeois.
Mais Noël aussi, quand on t'a bloqué les trains à Noël, on t'a privé d'un moment de plaisir. Regardez Laurent Andrieux, la tête qu'il fait. Je peux vous dire que vous l'avez privé de son grand moment de l'année. Donc voilà.
Le moment où il se déguise en Père Noël et tout.
Laurent, ça le pénalise plus de ne pas faire Noël que de pas aller au ski.
C'est clair, surtout qu'il ne fait jamais.
On est avec Grégory qui nous appelle de l'Alpe d'Huez, dans l'Isère. Bonjour Grégory.
Bonjour à tous. Merci de penser à nous, à nos stations, à tous nos copains de la montagne.
Ben évidemment, ben non, mais c'est vrai qu'on était très étonnés de voir cette grève des remontées mécaniques. Est-ce que vous êtes restaurateur en station de ski, Grégory? Si y a grève de ces remontées mécaniques, ça va vous pénaliser?
Absolument, ça peut nous pénaliser, mais il faut qu'on rassure tout de suite nos consommateurs. Il n'y aura pas d'impact sur les. Il y a un préavis qui a été déposé au niveau des syndicats, mais ils sont destinés à aller manifester sur Grenoble, à ne pas bloquer les remontées mécaniques. Ici, tout le personnel des remontées mécaniques a bien et bonne conscience de prendre bien soin de nos consommateurs, nos clients qui viennent consommer, qui ont économisé un certain moment de l'année justement pour faire des vacances plaisir.
Et
on est vraiment très atteint par rapport à ça et on souhaite que l'accompagnement se fasse. Donc il n'y a pas d'inquiétude, il faut qu'on rassure absolument d'ores aujourd'hui nos consommateurs. Les stations seront ouvertes, les remontées seront ouvertes. Moi j'ai beaucoup échangé.
On vous sent inquiet quand même, Grégory. C'est très sympa votre message et tout, mais là, votre façon de dire venez, je vous en supplie, on sent quand même une petite inquiétude. Hein.
Mais on n'est pas inquiet quoi. On n'est pas inquiet. On a de la chance. Nous aujourd'hui, on a du soleil, on a l'enneigement. Malgré tout ce qu'on a pu voir en début de saison, c'était un petit peu compliqué l'enneigement. C'était compliqué avec l'inflation. Les sociétés des remontées mécaniques ont trouvé des solutions justement pour pas augmenter de trop justement et impacter aux consommateurs l'augmentation des prix. Nous, on a décidé de fermer une semaine plus tôt le domaine justement pour pas impacter ces 10% de hausse. Et du coup, la station a décidé surtout de fermer sur la période où on pense plutôt au soleil, à la mer. Donc du coup, aujourd'hui, on est en plein dedans, on se concentre exclusivement sur la saison, sur le sport d'hiver, sur nos consommateurs qui vont venir en masse là, sur février. On a des super taux de remplissage et on n'est pas...
Là, pour l'instant, mais c'est vrai que excusez-moi, hein, mais quand vous économisez pour aller au ski et qu'on vous dit que les remontées mécaniques sont fermées, vous avez qu'une envie, c'est de pas y aller. Hein, donc,
le mal est fait, je pense.
Bah, vous n'avez pas intérêt à ce que les syndicats communiquent sur ce préavis de grève. Alors j'entends le fait que votre non-inquiétude, finalement, Grégory, mais c'est vrai que s'il n'y a pas de remontée mécanique, tout ce taux de remplissage de février, il va se réduire comme neige au soleil.
Mais imagine-toi, mais rien que le fait qu'on parle d'un préavis, alors que tu es en train de réserver tes vacances, tu dis... Bon, non, j'ai pas allé là. Ouais. Là, il y a des gens qui
peuvent visiter. Si t'hésites,
t'y vas pas. Ou alors tu vas ailleurs. Et c'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire que même si, et je fais confiance à Grégory, même s'il y aura pas de blocage des remontées mécaniques, le simple fait qu'il y ait cette petite musique-là, petite menace, eh ben, ça va faire qu'il y a des gens qui vont pas y aller. Ça, c'est clair.
Bon, et encore, le fait qu'il n'y ait pas de neige, ça y est, c'est écarté. Au moins, on sait qu'il y aura de la neige. Oui. Merci, Grégory, en tout cas, d'avoir été avec nous. Voilà, Grégory qui pousse ceux qui ont réservé à vraiment venir.
Allez, chez Grégory.
Cet hiver, Sébastien nous appelle de Chalon-sur-Saône. Bonjour, Sébastien.
Bonjour.
Vous partez au ski en février, Sébastien?
Oui.
Ah, vous n'avez pas peur?
Donc, non, pas du tout. Okay. Non. C'est ce que je disais à votre collègue là tout à l'heure. C'est j'expliquerai à mes enfants s'il y a une ou deux journées de grève que voilà, ces gens défendent leur travail. Et puis ma foi, on fera avec, on fera des balades ou on fera autre chose. Bon, après, si ça dure la semaine, c'est un peu plus embêtant, quoi.
Ouais. Oui. Mais bon, finalement, ça pourrait avoir un but pédagogique pour vous, quoi.
Bah, pour moi, oui. Après, voilà, on fait partie d'une famille, vous voyez, si on défend notre travail, quoi.
D'accord. Donc ça ne vous choquerait pas, même si ça vous pénaliserait évidemment parce que vous ne pourrez pas skier deux ou trois jours. Voilà, vous trouvez ça normal?
Ouais. Non, voilà. Après, des fois on y va, on a trois jours de pluie, on skie pas, quoi. Oui. On en est pas malade non plus.
Mais ça, c'est pas de la faute de la CGT.
Mais voilà, des fois, on accepte certaines choses et là, bah, c'est des gens qui travaillent, qui veulent défendre. Voilà. Tout le monde défend un peu son travail, donc on essaye de. On sera un peu pédagogique, on leur expliquera, quoi. On ira faire de la
patinoire. C'est bien les préparer à l'avenir. Les enfants dire que.
Non, mais il est philosophe, Sébastien. C'est très bien.
Préparer ses enfants en disant, de toute façon, vous allez vivre dans un pays où il y a tout le temps des grèves, c'est bien de les préparer, moi, je trouve ça.
Non, mais là, c'est bien. Moi, je trouve ça bien ce qu'il dit.
Ouais.
Non.
Allez-y, Sébastien.
Ouais, je suis signe d'une famille où tout le monde se défendait, donc. Voilà, j'ai eu un grand-père qui a travaillé jusqu'à 65, c'est revenu à 60, maintenant repart à 65. Donc, c'est un peu bizarre.
Bah merci Sébastien en tout cas d'avoir été avec nous, mais c'est vrai qu'on dit souvent que les Français sont des râleurs et là on voit que Sébastien il prend plutôt ça avec philosophie. Moi je trouve, personnellement je trouve ça très bien.
Il faut être philosophe. J'aime bien son flegme aussi.
Oui.
C'est tranquille parce que moi je peux avoir tous les principes du monde, si je paye 5 000 euros à 5 pour aller skier et qu'on m'empêche de skier pour une grève, je pète les plombs.
Même si
je suis d'accord avec eux, mais je pète un câble.
Après c'est bien aussi de rappeler comme il l'a fait que la montagne ne se réduit pas au ski, qu'il y a d'autres choses à faire.
Après le flegme Sébastien, on verra au bout de la 7e journée de grève.
C'est ça.
Enfin, pour l'instant, c'est pas prévu. On va pas mettre les stations de ski à feu et à son, alors que la CGTF ont déposé un préavis de grève, mais pour l'instant, on attend de voir si ça va marcher ou pas. Rémi, on a fait une consultation sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Priver les vacanciers de remontées mécaniques, est-ce que c'est scandaleux, Rémi?
C'est le oui qui l'emporte, c'est scandaleux, mais c'est pas franc du collier. C'est 54% de ceux qui sont prononcés sur les réseaux sociaux qui estiment que c'est scandaleux.
Tu sais pourquoi? Parce que l'immense majorité des Français ne vont jamais au sport d'hiver.
Oui, parce que ce sont les plus riches, effectivement, qui y vont. Donc ça n'impacte pas. Dans un instant, justement à 13h, on fera un débat sur les riches avec cette proposition du prix Nobel de l'économie qui voudrait taxer les plus riches de la planète à 70% pour réduire les inégalités. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Et puis dans un instant, Anthony Morel qui va nous présenter le fast-food du futur. A tout de suite sur RMC dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Midi 48 sur RMC, RMC Story Canal 23. Vous êtes dans Estelle Midi et c'est le moment d'accueillir Anthony Morel. On n'arrête pas le progrès.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et Anthony, aujourd'hui, grâce à vous, on va visiter le fast-food du futur aux États-Unis. McDonald's vient de lancer un nouveau restaurant expérimental complètement robotisé. On n'y croise pas un seul humain.
Oui, c'est assez bizarre. Hein. C'est une expérience très étrange qui est racontée par un certain nombre d'internautes parce que c'est devenu viral, évidemment. Donc, ils arrivent dans ce restaurant, dans ce McDo de Fort Worth, au Texas. Et là, surprise, pas un humain à l'horizon. Il n'y a pas de comptoir, il n'y a pas de serveur. Ils passent leur commande. Il y a des bornes quand même, tactiles. Puis, on peut faire par une application aussi. Et une fois que la commande est passée, eh bien, vous avez un tapis roulant sur lequel votre commande arrive comme par magie, ou alors un bras robotique.
Quand même.
Alors, c'est ça, c'est que pour l'instant, il reste quand même des cuisiniers humains. Pour l'instant, chez McDo, et c'est comme ça qu'ils se justifient, parce que ça a fait un petit peu polémique là-bas. Les gens ont dit, ouais, attendez, ils sont en train de tout automatiser plutôt que d'améliorer les conditions de travail de leurs salariés qui sont parmi les plus mal payés aux États-Unis. Ils ont préféré tout robotiser. McDo dit, non, mais attendez, on a encore des gens pour préparer les hamburgers et les frites. Pour l'instant, parce qu'en fait, il existe aujourd'hui des systèmes ultra sophistiqués qui sont utilisés dans certains fast-foods et qui permettent, en fait, c'est des robots préparateurs de hamburgers, ceux notamment d'une start-up qui s'appelle Miso Robotics. Ouais. Impressionnant. Vous allez voir, pour ceux qui nous regardent sur la 24, c'est Oui, restez bien sur la 23. Donc, ils prennent avec leurs petits bras robotisés des steaks, ils sont capables de le poser sur le bun, puis d'ajouter du fromage, enfin tout ce que vous voulez.
Mais quand tu demandes
en fait, tu peux le faire via l'application ou via la borne. Normalement, tu peux choisir toutes tes options. Après, c'est s'il y a une erreur. Normalement, la machine ne se plante pas. Mais si elle a mis de la sauce barbecue à la place du ketchup,
tu te fâches contre qui?
Tu peux pas les gueuler.
Voilà, tu peux pas aller tourner.
Ça peut pas marcher en France.
C'est un petit peu plus compliqué, évidemment. Mais en tout cas, c'est une expérimentation qui a été donc lancée aux États-Unis. On verra si ça arrive.
Ça me fait beaucoup de peine, car j'ai bossé au McDo.
C'est toute une époque.
En cuisine.
C'est vrai?
Vous êtes en train de me supprimer mon premier boulot.
Vous avez été équipière.
J'ai été équipière.
Comme ça qu'on dit.
Ça t'a donné des trimestres? Pour la retraite, ça t'a donné.
Est-ce que tu as été employé du mois?
Non, j'en rêvais, mais malheureusement, je n'ai pas été. La vie est injuste.
Classique.
Ça pourrait arriver en France ou pas, ce genre de choses? C'est uniquement américain?
Alors, moi, je pense que oui. Je dirais même qu'on est pionnier en la matière. Alors, pas chez McDo, mais vous savez qu'il existe aujourd'hui des restaurants automatiques, alors notamment des pizzerias. C'est très spectaculaire. Il y en a notamment à Val d'Europe, en région parisienne. Ça s'appelle Pazzi. C'est une start-up française qui a mis ça au point. Donc, c'est vraiment un pizzaiolo robot. Donc, vous arrivez, vous passez votre commande, et en fait, vous avez des bras robotiques qui vont se saisir de la pâte, la malaxer, mettre la sauce tomate, mettre vos ingrédients dessus, la mettre au four, la récupérer et la découper sous vos yeux ébahis. Eh ben, vous faites la moue. Mais figurez-vous que c'est hyper intéressant d'un point de vue prix. Aujourd'hui, on parle beaucoup des questions de prix. Ouais. Vous allez payer une pizza qui, en fait, ouais, comme il n'y a plus de main-d'œuvre, ouais, elle va être moins chère ou alors elle va être avec de meilleurs ingrédients.
Est-ce que c'est vraiment moins cher?
Ouais, bah, en fait, c'est le prix d'une pizza normale, mais avec des ingrédients AOP ultra haute qualité, en fait. Vous allez payer entre 8 et 14 euros la pizza. Donc, c'est un prix relativement classique pour une pizza.
8 euros, c'est pas cher. 14 euros, c'est quand même déjà une pizza.
Oui, mais c'est ça, mais ça dépend des ingrédients qu'on met dessus. Mais là, pour le coup, vous avez des ingrédients très haute qualité. Et ça, donc, c'est une start-up française qui a mis ça en place.
Mais ça marche au moins, les gens y vont.
Absolument, ouais, ça marche très très bien. Et c'est pas les seuls. Il y a aussi une chaîne de restaurants de pâtes qui s'appelle Kala, qui fait la même chose. Donc, la même chose,
c'est un.
Ah,
bah
oui, un retouche sacré. Là, on sent qu'on touche au
même la pizza. Si t'as pas le pizzaiolo qui jongle avec la pâte,
ça va. Qu'est-ce que ça change?
C'est quoi vos pâtes là, Kala?
Ouais, Kala, bah, c'est le même principe en fait. C'est un restaurant qui va sortir 400 plats par heure, une cuisine de 4 mètres carrés. Et donc c'est une machine qui va, bah voilà, vous faire en fait toutes vos salades de pâtes, les pâtes avec les préparations, les sauces, etc. Mais non, c'est pas. Bah, attendez, c'est pour le coup, il y a pas vraiment de grande différence avec ce que pourrait faire un être humain.
Ah non, on touche pas aux pâtes.
Ah, on touche pas aux pâtes. C'est vraiment une question de religion quoi, presque derrière en fait.
Oui,
c'est ça.
Puis, excusez-moi, mais enfin tout ça c'est très bien technologiquement parlant, mais ça va mettre tout le monde au chômage.
Non, alors
le pizzaiolo de Laurent Dandrieux.
C'est un peu ça.
Mais
c'est
pour les cantines scolaires, les restaurants d'entreprise, c'est une super idée parce que souvent
ils
vont commander dans des boîtes extérieures, ils sont livrés par camion, ils réchauffent à peine.
Ah, comme nous.
Et c'est peut-être une manière d'avoir de la bouffe fraîche.
En fait, la révolution industrielle n'a pas mis les gens au chômage.
Non, mais
il vous aura pas échappé que dans la restauration, on manque quand même de personnel en ce moment. Il y a 220 000 postes à pourvoir. Donc en fait, ces robots, ils sont pas en train de mettre des gens
partout.
Non, ils sont pas en train de mettre des gens au chômage. Ils sont en train de pourvoir des postes qui aujourd'hui ne sont pas pourvus. La deuxième chose, c'est que ça fait c'est de la robotique visible. C'est ça en fait qui vous gêne, parce que ça vous gêne pas que ce soit des robots qui mettent vos yaourts dans vos pots à yaourts.
Ah non, ça me gêne pas.
Bah voilà, bah pourquoi ça, vous voyez, que ce soit des robots qui assemblent les voitures que vous achetez. Donc
ah non,
pourquoi
ça me gêne pas, ça.
Bah voilà, en fait cette robotisation, c'est que pour les pâtes en fait.
La religion des pâtes.
Anthony, voilà. C'est Tricatel. Vous vous souvenez d'aller où la cuisse 1976.
Justement, c'est Tricatel. Non, c'est l'inverse de Tricatel. C'est pas vrai, parce que Tricatel c'était robotisé, mais c'était des trucs, c'était des équipements plastiques.
C'était surtout chimique.
Là, c'est que tu vas pouvoir avoir des vrais produits de qualité, mais qui sont traités aussi par des robots. Et les robots vont pas remplacer complètement les cuisiniers. Évidemment, il y aura toujours un génie humain, un savoir-faire humain, qui pourra être augmenté par les robots qui vont pouvoir servir de commis, aider.
Comment tu diras d'habitude, des fois, tu dis oui, bah féliciter le chef.
Est-ce que je peux voir le chef? Non, ça va pas être possible.
Féliciter le robot. Je lui ferai une petite vidange de ma part. Gratuitement.
Ah, mais il n'y aura plus de pourboire, donc.
Il n'y aura plus de pourboire non plus, évidemment. Non, non, mais et plus sérieusement.
Le monde de demain.
Quand on parle de. Hein, non, non, mais quand on parle de robots et de chômage, toujours, gardez en tête aussi que les pays où il y a le moins de chômage, c'est les pays en fait les plus robotisés. Oui. La Corée du Sud, le Japon, l'Allemagne.
La révolution industrielle n'a pas mis tout le monde.
Est-ce que ce sont les pays qui nous font rêver?
Bon, le Japon, et la Corée du Sud, c'est pas mal, hein.
Ouais. Mais qu'est-ce que vous avez contre l'Allemagne?
Oh, bah, si.
L'Allemagne, c'est sympa aussi.
Ouais, l'Allemagne,
un petit week-end à Berlin.
Bon, ah, Berlin. Oui, enfin, Berlin n'est pas l'Allemagne et l'Allemagne n'est pas Berlin.
Bon, ok.
C'est là que tu te dis qu'on pourra jamais remplacer Fred Hermel par un robot. Quoi.
Oh, détrompe-toi.
Oh, avec les chat GPT, ça pourrait venir.
Anthony Morel, tous les jours dans Estelle Midi, midi 50. Et si vous voulez retrouver sa chronique, eh bien, vous pouvez la retrouver donc à toute heure du jour et de la nuit en podcast, bien sûr, sur l'application RMC, sur rmc.fr et sur vos applications de podcast. Vous êtes riche, Anthony Morel?
Extrêmement riche.
Eh bien, je le savais. Eh bien, le prix Nobel d'économie veut vous taxer à 70% pour réduire les inégalités dans le monde. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée de taxer effectivement les plus riches à 70%? On attend vos appels, vos réactions au 32-16 et sur l'appli RMC. À tout de suite.